les enfants de Chronos.
Après la mort de son père en 1599, Henri de Schönberg hérite logiquement du comté. Filleul du roi Henri et de Marguerite de Valois, le jeune homme a débuté sa carrière sous les meilleurs auspices. Il succède dans un premier temps à son père à la tête des reîtres, ses cavaliers mercenaires allemands au service du roi de France, et par la suite il lui succède comme surintendant des finances du jeune Louis XIII en 1619 et commande également l'artillerie royale avant d'être fait maréchal de France en 1625. Il se distingue à la tête des armées de Louis XIII et de Richelieu dans la lutte contre les protestants, et notamment lors du siège de La Rochelle en 1627-28. Le cardinal ministre a en effet pour programme un triple objectif, soumettre politiquement et militairement les protestants, abattre les velléités des grands du royaume, et enfin bien entendu, lutter contre les Habsbourg dont les possessions en Europe s'étendent des Pays-Bas à l'Espagne en passant par l'Italie. Schönberg se montre un des plus fidèles soutiens de Louis XIII, il mène ses armées victorieusement en Italie. Le comte de Nanteuil est donc peu présent dans le Valois. Son contemporain, le duc de Valois, n'est autre que le frère du roi. S'il est encore moins présent dans la région, le second fils d'Henri IV est un personnage d'envergure et s'appelle Gaston d'Orléans. Il a reçu le duché en 1626. Ce prince, grand amateur et protecteur des arts, est souvent présenté comme le conspirateur le plus actif du règne de Louis XIII, son frère. Jusqu'à la naissance très attendue du dauphin, le futur Louis XIV, Gaston est également surnommé « Monsieur ». Et c'est le premier prétendant au trône pendant près de 30 ans. Opposé davantage à Richelieu et sa politique de centralisation des pouvoirs qu'à son frère, Gaston prend d'abord parti pour sa mère, Marie de Médicis, lorsque Louis XIII la pousse à l'exil. Il lève des troupes et rejoint le duché de Lorraine en 1631, et lorsque le roi envahit la Lorraine, Gaston et son armée rejoignent les Pays-Bas espagnols avant de se rallier, à son retour en France, aux troupes insurgées du puissant duc de Montmorency, amiral, maréchal et gouverneur de Languedoc. Finalement, le roi pardonne à son frère, celui-ci se retourne contre Montmorency et réprime sévèrement le soulèvement. Les armées royales se dirigent vers le Languedoc, deux maréchaux les dirigent tandis que Gaston d'Orléans reste en retrait. Le premier maréchal a entré en contact avec les révoltés et Henri de Schönberg. Celui-ci les affronte à Castelnaudary et l'emporte sur Montmorency, le duc blessé mais vivant est arrêté. Louis XIII ordonne alors son exécution, mais il lui accorde, au vu de son rang, qu'elle ait lieu à huis clos dans l'enceinte du Capitole à Toulouse. Ce haut rang n'évite donc pas, bien au contraire, d'échapper à la sentence suprême. Aucun sujet du roi, même parmi les plus puissants, ne doit échapper à la justice royale, comme le préconise Richelieu. Après l'exécution de Montmorency en 1632, le gouvernement du Languedoc revient au fidèle Henri de Schönberg, vainqueur militaire des insurgés. Mais quelques semaines plus tard, une crise d'apoplexie l'emporte. L'apoplexie est le terme couramment donné par les témoins, et repris donc par les historiens, aux attaques cérébrales. C'est à Charles de Schönberg, fils du précédent, que revient finalement la charge de gouverneur du Languedoc. Le corps du comte de Nanteuil, mort à Bordeaux, est rapporté dans le Valois pour qu'il soit inhumé, comme les autres seigneurs, à l'exception des Guises, dans la chapelle des comtes du prieuré clunisien de Nanteuil. Le premier d'entre eux fut Philippe de Nanteuil en 1228. Le dernier sera Charles de Schönberg, un quart de siècle après son père. À Crépy, le duc de Valois, Gaston d'Orléans, est peu présent, comme on peut l'imaginer. Cependant, son nom parle aux Crépinois, et une petite rue porte son nom. Celle-ci menait au couvent des Capucins qui s'élevait hors les murs à la place de l'actuel hôtel de ville de Crépy. Quelques moines capucins, ordre, vivant dans la pauvreté et secourant les plus humbles, se sont installés à la suite de l'autorisation du duc en 1644. Leur venue succède à celle des sœurs Ursulines, une vingtaine d'années auparavant, et installée dans une partie de l'enceinte du château, au cœur du bourg, sur autorisation de Louis XIII, et après le legs d'importantes familles crépinoises. La vie à Crépy est difficile pour une bonne partie de la population en ce XVIIe siècle. Les religieux occupent une place fondamentale dans l'aide et le secours. Cependant, ces communautés, nombreuses, prélèvent également une bonne part de la ressource de la cité qui a subi un profond déclassement avec le déplacement des autorités administratives à Villers-Cotterêts. Le marché au blé, florissant au siècle précédent, n'a plus qu'un intérêt local. Crépy est désormais trop excentré des routes actives. À partir de 1635, la France de Richelieu entre ouvertement en guerre avec l'Espagne. Louis XIII et son cardinal ministre n'ont pas pour autant jusqu'ici joué les spectateurs dans ce que nous appelons aujourd'hui la guerre de 30 ans, finançant notamment les États protestants comme la Suède, qui se bat contre les Habsbourg d'Autriche et d'Espagne, puissance catholique, comme la France, mais ennemis politiques. C'est dans ce contexte que le maréchal Henri de Schönberg a repris des places fortes en Italie quelques années plus tôt, telles que le Pas de Suse, Pignerol et Casale. Son fils, Charles, comte d'Halluin et de Nanteuil comme son père, lui succède avec la même réussite, triomphant notamment des Espagnols à Leucate en 1637. Le haut fait d'armes lui donne d'accès au maréchalat, comme son père avant lui, ainsi qu'au titre de pair de France. Louis XIII est emporté par la maladie en 1642 et Richelieu l'année suivante. Le royaume entre alors dans une nouvelle période de régence, le nouveau roi n'ayant que 5 ans. Anne d'Autriche, sa mère, gouverne avec le successeur de Richelieu, le cardinal Mazarin. À la tête de l'État a changé, mais Charles de Schönberg n'en pâtit pas, bien au contraire. Quittant le gouvernement du Languedoc, cédé à Gaston d'Orléans, il devient gouverneur de Metz et des trois évêchés, Verdun, Toul et Metz. Ce sont des places particulièrement exposées, puisqu'enclavées dans le Saint-Empire. Celui-ci est devenu vice-roi de Catalogne. Il épouse, en 1646, en seconde noce, l'ancienne favorite du roi Louis XIII, Marie de Hautefort. D'abord dame d'honneur de Marie de Médicis, elle avait été remarquée par le jeune souverain, alors âgé d'une trentaine d'années, avant de s'unir à Charles de Schönberg. Très proche de la reine Anne d'Autriche, elle perd les faveurs de Louis XIII au profit de Mademoiselle de Lafayette notamment. Les rapports platoniques entretenus avec Louis XIII sont en effet faits de haut et de bas, comme toutes les passions, jusqu'en 1639, date de son éloignement définitif de la cour. Devenue comtesse de Nanteuil en 1646, elle est tenue par son mari dans une neutralité qui la préserve des dangers du moment. En effet, Louis XIII n'est plus, mais les tensions à la cour sont vives. Le jeune Louis XIV n'étant pas encore majeur, sa mère, la régente Anne d'Autriche, doit faire face à la fronde d'une partie de la noblesse et les intrigues se multiplient. Après la mort de Charles de Schönberg en 1656, Marie de Hautefort regagne Paris et les salons, décidant ainsi de vendre le comté de Nanteuil. Elle bénéficie jusqu'à la disparition de la reine-mère, puis jusqu'à sa propre disparition en 1691, de l'attachement de la reine-mère d'abord, puis de la bienveillance et de l'attachement du roi lui-même. Clin d'œil ou ironie des temps, Nanteuil est vendu au frère de l'une des plus grandes favorites restées dans l'histoire. C'est le maréchal d'Estrée, frère de Gabrielle d'Estrée, célèbre maîtresse d'Henri IV, qui fait l'acquisition du comté de Nanteuil en 1658. François Annibal d'Estrée, marquis de Coeuvres, est âgé de 75 ans lorsqu'il achète le comté. Destiné en tant que cadet de famille à une carrière ecclésiastique, il devient évêque-comte de Noyon à 21 ans seulement, en 1594. Cette même année, son frère aîné est tué lors du siège de Laon, et cela pousse François Annibal à délaisser la mitre épiscopale et à opter pour la carrière militaire. Dès lors, le profil de d'Estrée ressemble à celui de ses prédécesseurs à Nanteuil. Jugez-en plutôt. Militaire, diplomate, pair de France, chevalier du prestigieux Ordre du Saint-Esprit, et bien entendu, maréchal de France. C'est donc le troisième des cinq maréchaux qui se succéderont à la tête du comté entre 1625 et 1737. Ajoutons au passage qu'il a épousé la nièce de Sully. L'homme s'illustre autant comme ambassadeur de Louis XIII à la tête des armées royales et même avec sa fonction de connétable, puisque la fonction de connétable a disparu, mais Louis XIV on le réutilise en 1654 lors de son sacre, et l'office est devenu en fait un gage de confiance royale remarquable. Le prestigieux comte de Nanteuil s'éteint à Paris à l'âge canonique, pour l'époque, de 97 ans. Il faut dire que l'homme a de la ressource. En 1605, déjà âgé de près de 40 ans, il aurait remis aux moines de la Chartreuse de Vauvert à Paris, là où s'étend aujourd'hui le jardin du Luxembourg, un élixir de longue vie. Les religieux, réputés fins herboristes, en auraient tiré la célèbre Chartreuse. Cependant, la complexité de la recette de d'Estrée lui vaudra de rester dans le sommeil pendant plus de 130 ans, avant qu'un frère de la Grande Chartreuse, près de Grenoble, ne la produise. L'élixir végétal de la Grande Chartreuse était né. Il deviendra la Chartreuse verte après la Révolution. Après la mort inéluctable du maréchal d'Estrée, malgré le secret de l'élixir, le titre de duc passe à son fils aîné, tout simplement prénommé comme son père François Annibal. Il sera donc affublé d'un numéro 2. Comme son père, il est gouverneur d'Île-de-France et ambassadeur à Rome. Cela lui vaut d'ailleurs de se retrouver en première ligne lors des conflits qui opposent le roi Soleil et le Saint-Siège. Il a bénéficié dans sa tâche du soutien indéfectible de son frère, le cardinal César d'Estrée, qui résidait à Rome auprès du pape. En 1687, à la mort de François Annibal II, sans descendance, c'est son frère cadet, Jean II, qui hérite du comté de Nanteuil.